Bonjour, je suis Doriane du collectif des Petits Métalleux. Je fais des interviews pour Radio U. Merci d'avoir accepté notre demande.
Bonjour, je suis Kélène. J'accompagne les deux autres zouaves pour explorer la prog du motoculteur et mener des interviews dantesques.
Bonjour, je suis Awen. Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Alors, moi c'est Eriksen de Orwin.
Vous vous définissez comme one man band. Pouvez-vous nous expliquer le concept?
Le concept il est très simple, c'est-à-dire que en fait je compose tout. Et du coup, j'ai des musiciens qui viennent jouer avec moi sur scène. C'est le concept du one man band. Je préfère rester seul maître à bord, parce que j'ai ma vision de la musique, je sais exactement comment elle doit sonner. C'est plus facile pour moi de travailler comme ça.
L'année dernière, on a eu aussi un one man band, Carpenter Brut.
Ouais, alors on pourrait dire que c'est un peu la même... C'est exactement la même formule, hein. C'est-à-dire que ce gars-là est seul, il compose tout. Alors je sais qu'il a un batteur, Dylan, il me semble, je sais plus si c'est non, c'est pas Dylan, ça c'est plutôt Perturbator. Je suis en train de confondre les deux, mais il faut dire que j'écoutais les deux un peu en même temps. Mais voilà, c'est exactement le même concept. En fait, il y a une personne qui compose tout, qui donne vraiment toute la direction artistique. Et puis après, du coup, on a des musiciens qui viennent se greffer. Généralement, on demande en fait à ceux qu'on connaît, est-ce que tu veux jouer avec moi, tout ça quoi.
Vous avez signé chez Dadlo ou les Acteurs de l'Ombre, pour ceux qui ne connaissent pas, dès votre premier EP. Mmh. Vous avez par ailleurs entièrement produit. Vous vous êtes distribué par Season of Mist, c'est un sacré départ. À l'écoute, c'est mérité. Mais comment avez-vous réussi cet exploit?
Alors déjà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut parler d'exploit parce que finalement, signer aujourd'hui un groupe, sortir un album, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le Saint Graal et que c'est juste le début en fait. Moi, c'est vrai que pouvoir signer chez les Acteurs de l'Ombre, ça a été une super opportunité. Être bien distribué, c'est également une super opportunité. Tout ça, finalement, c'est qu'un début. Alors, je suis très reconnaissant parce qu'il y a encore des groupes qui sont pas encore arrivés à ce stade-là, mais j'insiste vraiment sur le fait que même si tu signes sur un label, tu as encore tout à faire. Moi, le but derrière, c'est vraiment d'essayer de pouvoir déjà jouer le plus possible et partout. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir jouer partout dans le monde, parce que c'est une expérience de vie qui est juste extraordinaire, de pouvoir donner des émotions à des gens qui sont à l'autre bout de la planète ou des choses comme ça. C'est extraordinaire. Ouais, j'ai pas d'autre mot que moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après voilà, le travail maintenant, on est en plein dedans. Il faut pouvoir se positionner sur des bons festivals, sur des dates qui ramènent du monde. Tout ça, c'est beaucoup de boulot. Après, voilà, la renommée de Orwin est en train de se construire petit à petit. Plus en plus de gens qui nous suivent, plus en plus de gens qui viennent au concert. On commence à faire de plus en plus maintenant les têtes d'affiche et tout ça. C'est absolument génial et j'espère que ça va. J'espère pouvoir emmener ce projet le plus loin possible.
En plus de votre maîtrise instrumentale, vos compétences techniques sont très étendues. Êtes-vous autodidacte?
Je suis totalement autodidacte. Hein. Tu me files une partition, je comprends rien à ce qu'il y a marqué. Hein. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un truc que j'ai appris. J'ai vraiment appris le jour où je me suis acheté une guitare, en fait. Et j'ai commencé assez tard, hein, finalement, parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Et je me suis acheté une guitare, et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout a été très facile. Je ne me suis jamais senti en galère ou en quoi que ce soit. J'apprenais des morceaux de groupes que j'aimais via les tablatures, les choses comme ça, et en fait... Jamais pris de cours, quoi. Je comprenais comment il fallait faire. Bon, il y avait des fois, je voyais en concert les mecs un peu comment ils faisaient. Je me suis dit, ok, d'accord, le mec fait comme ça, je vais faire comme ci, etc., etc. Pour les techniques, mais je suis quelqu'un de très curieux. J'essaye toujours d'apprendre quand même dans ce que je fais, Mais c'est vrai que j'ai ce côté, je veux faire par moi-même. J'apprends beaucoup mieux en faisant par moi-même que si... Ouais, moi, j'étais très mauvais à l'école. du coup, je fonctionne bien mieux tout seul. Voilà, apprendre. Alors, forcément, j'apprends auprès de musiciens qui sont bien plus calés que moi, mais juste en jouant avec eux. Personne n'est là à m'expliquer, vas-y, tu devras faire comme ci, comme ça. C'est juste, tu joues avec eux, et puis tu te dis, ok, d'accord, c'est ça le niveau d'un mec qui est vraiment super bon, qui est pro. Ok, bah moi, je dois arriver à ce niveau-là. Et arriver surtout à un niveau où je me dis, bon, bah j'arrive sur scène, je suis tranquille, quoi. Parce que il y a toujours une part de stress sur scène. Et si tu arrives et que t'as pas suffisamment bossé, ça va être très compliqué. Pour la partie instrumentale, ça s'est fait comme ça. Pour la partie, donc production, parce que c'est... voilà, j'enregistre moi-même mes albums, je les produis, etc. Ça, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais 20 ans. Juste le plaisir, en fait, d'être capable de mixer tout un album, c'est toujours un truc qui m'a hyper attiré. Là, pour le coup, je me suis beaucoup rapproché de gens qui avaient déjà de l'expérience dans le milieu, qui m'ont filé des petits tips, mais après, j'ai vraiment développé ma vision. Bah voilà, moi, je veux que ça sonne comme ci, comme ça. Je commence, je dirais qu'il n'y a que maintenant, vraiment, le premier album de Ruin, quand il est sorti, je voulais qu'il sonne comme ça, et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Donc je dirais, ouais, il n'y a que depuis 2021 que j'arrive vraiment à produire ce que j'ai envie, en fait. Parce que tout ça, c'est des techniques, il y a des années d'études derrière pour obtenir tout ça. Et moi, j'ai tout appris, voilà, comme ça, tout seul, en essayant, en me trompant, avec mes échecs et tout. Donc il n'y a que vraiment maintenant, vous voyez, alors que j'ai commencé, faites le calcul, hein, j'avais 20 ans, donc il y a 16 ans. Et donc c'est beaucoup de travail quand on est tout seul, ça aurait été peut-être un peu moins si j'avais pris des cours, mais j'ai besoin en fait de faire ça comme ça, tout par moi-même. C'est vraiment la culture du do it yourself, et ça me va très bien comme ça. Je me sens pas dépassé ou tout ça, j'arrive toujours à obtenir ce que je veux, donc c'est bon.
Vous vous êtes acheté une guitare à 18 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à en acheter une? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir apprendre la musique? Et quels sont vos groupes préférés?
Alors, c'est très simple. Entre 16 et 17 ans, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Emperor. Peut-être que vous connaissez. Un groupe très, très connu. Une immense légende de la scène black metal. Et le jour, j'écoutais déjà du metal à l'époque et tout ça, mais pas énormément de black metal encore. Et j'écoute ce groupe. Et en l'écoutant, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, j'ai envie de faire de la musique. Je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est juste, j'ai écouté l'album. J'ai dit, ok, je vais aller bosser un été et je vais m'acheter une guitare et j'ai envie de savoir jouer de la guitare. C'est venu vraiment comme ça. Avant, à l'âge de 14 ans, je beuglais dans des groupes de garage. Qui n'avait aucun intérêt. Donc on va dire que j'ai commencé mes premières armes un petit peu comme ça, même si ça n'avait pas trop de sens. Mais vraiment, ouais, quand j'ai écouté cet album, je me suis mis très sérieusement à apprendre vraiment à tout composer, à faire de la musique. Et puis, voilà, le temps a fait que les choses se sont faites petit à petit, quoi.
Avez-vous une préférence entre la composition, l'exécution et la production? Est-ce que ça représente un ensemble pour vous?
Alors pour moi, c'est difficile. C'est difficile parce que j'aime les trois. Mais les trois n'ont pas du tout le même aspect. L'exécution sur scène, c'est pour moi l'aboutissement de ton travail. Tu es là, tu joues, tu te mets à nu devant des gens qui viennent te voir. Tu dois déjà faire la meilleure prestation possible. Et en même temps, il se dégage cette fierté, cette joie et aussi cette reconnaissance de se dire « Putain, je suis sur une scène, il y a des gens qui viennent et qui kiffent ma musique dont j'y ai passé je ne sais pas combien de centaines d'heures à la composer, etc. etc. » Ça, c'est un aspect qui, pour moi, aujourd'hui, est extrêmement important. Mais la phase de composition, c'est, euh, c'est quelque chose, moi, dans lequel je prends énormément de plaisir, dans le sens où j'extériorise beaucoup. Et en fait, j'extériorise énormément sur scène, toute la négativité que j'accumule chaque jour, mais surtout dans la composition. Et je me sens jamais plus vivant que quand je compose, parce que là, je suis en train d'extraire une partie de moi-même. Et la production, c'est purement le côté nerd de la chose. C'est juste, moi, ça a toujours été un kiff de pouvoir mixer des instruments et de faire en sorte que tu pars d'un truc et t'obtiens un truc qui sonne, qui défonce et tout. C'est compliqué, c'est dur, j'en ai extrêmement chié pour mon album. Aujourd'hui, quand je l'écoute, je me dis, putain, il y a des trucs, j'aurais pas dû le faire comme ça, mais les musiciens, on est tous un petit peu perfectionnistes et on n'est jamais pleinement satisfait de ce qu'on fait. Mais ces trois aspects-là, c'est ces trois aspects où je prends énormément de plaisir, mais à des échelles différentes. Donc, je ne peux pas te dire que je préfère l'un ou l'autre. J'aime tous ces aspects-là.
En fait, vous avez beaucoup travaillé, mais là, c'est toute votre vie, mais c'est aussi votre moment détente.
Alors, est-ce que je peux dire que c'est un moment détente ? Le moment détente, je dirais que c'est une fois que le concert est fini, que je suis à boire une bière avec mes potes. Là, vraiment, je commence à me détendre parce que j'ai toute la tension qui redescend. Pour le reste, c'est pas de la détente, c'est juste du plaisir, mais c'est énormément de prise de tête. Pour l'album, pour vous donner une idée, j'ai passé 3 mois à l'enregistrer et à le mixer, avec mon seul recul. J'en ai fait des nuits blanches, c'était un cauchemar parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais et tout. Et il y a même eu un moment donné où j'ai failli envoyer tout bouler parce que j'en pouvais plus, quoi. Je dis, putain, ça sonne pas comme je veux. J'arrive pas à obtenir le son que je veux. Et je peux te dire que vraiment, à ce moment-là, j'ai pas spécialement pris de plaisir. C'était pas la détente. Quand tu enchaînes des nuits blanches et des nuits blanches, tu te réveilles et les rares fois où tu dors, tu te réveilles en pleine nuit parce que tu as un éclair de lucidité. Tu te dis, mais tiens, j'aurais dû faire comme ça. Donc je me réveille à 4 h du matin, je vais dans mon studio et je commence à bidouiller. Enfin, moi, ça m'a rendu complètement cinglé. Et non, on donne énormément de notre personne, même quand on est sur scène. C'est un kiff. Et en même temps, c'est pas l'enfer sur Terre. Tu donnes tellement de toi que tu as toujours une phase. Moi, par exemple, avant un concert, tu peux pas me parler. Au moins 1 heure, 2 heures avant, je suis dans ma bulle parce que je suis déjà concentré sur ce que je vais faire. Et en général, après, juste après le concert, il faut me laisser tranquille. Il faut surtout pas venir me parler. Parce que je vais t'envoyer chier déjà. Parce que je suis encore dans toute la débauche que je viens d'avoir là sur scène. Auquel tu as la nervosité, toute ma colère s'exprime, toute ma négativité s'exprime. Il faut vraiment me laisser tranquille à ce moment-là. Il y a du plaisir.
C'est presque psychanalytique.
Ah mais moi c'est une véritable catharsis. Hein. Je fais pas ça juste pour dire tiens je fais de la musique. Non, je fais ça parce que moi ça me permet de conserver une certaine stabilité mentale. Si j'ai pas ça, je pense que je vais visiter tous les hôpitaux psychiatriques de ma région. J'ai vraiment besoin de ça. Si je fais pas ça, j'ai juste l'impression de pas exister et de... Et puis surtout, il se passe trop de trucs dans ma tête que j'arrive pas à gérer. Et grâce à ça, en fait, je peux gérer. Grâce à la musique, grâce à la création, j'arrive à les gérer. Donc il faut que ça dure.
Beaucoup de groupes de blagues sortent des productions dont le son forme un mur. Une masse assez indéfinissable, c'est un parti pris. C'est aussi parfois ce que l'on vient écouter. Vous avez réussi à sortir de cet écueil. Votre EP et votre album révèlent toutes les pistes très distinctement. L'équilibre est parfait. Pouvez-vous nous expliquer votre production ?
Alors, par rapport à cette question, en quoi pour toi je sors de cet écueil, par exemple ? Là, c'est moi qui vais te poser une question. C'est moi qui vais vous poser la question. Parce que pour être franc, le début de la question, beaucoup de groupes de black sortent une production qui forme le mur de son. Moi, faut savoir qu'un de mes artistes préférés all time, c'est Devin Townsend, qui n'a rien à voir avec du black metal. Et j'ai toujours été ultra fan de sa production. Enfin, je l'ai vu tellement de fois en concert. J'ai tellement poncé sa musique, que ce soit sa période strapping ou ce qu'il fait, voilà, sous l'appellation Devin Townsend Project et tout. Moi, c'est une production que je trouve extraordinaire. Et j'aime énormément ce côté mur de son. Je ne vais pas dire que j'essaie de produire ça, que j'essaie de produire Ruine. On a marché sur ces terres. Déjà, je n'ai pas ce niveau de production, mais c'est quelque chose, moi, qui m'inspire justement. Et j'aime énormément ce côté mur, ce côté mage. Je trouve que ça colle très, très bien, justement, avec ma musique. Et à côté de ça, je suis très années 70 dans les productions.
Je parlais vraiment d'un... On prend toutes les guitares ensemble, même niveau, la basse. La...
Ça fait ouais, d'accord. Alors là, on est plus dans les productions hardcore, deathcore actuelles, où c'est vraiment tout doit sonner fort. Ouais. Alors,
En ruine, c'est vraiment à l'oreille. On se concentre, quel que soit l'instrument qu'on va y suivre, on se concentre. Bon, là,
cool, ça veut dire que je fais bien mon travail. Ça pour moi, c'est justement mon côté années 70. C'est-à-dire, même si on est malgré tout un peu obligé, même ça me fait énormément chier de dire ça, mais on est un petit peu obligé quand même de suivre certains standards actuels. Après, il faut savoir ce que tu veux, mais il y a quand même un certain niveau sonore à respecter sur un CD. Mais moi, je trouve les productions des années 70 tellement mieux que les productions actuelles. Même si je parlais de Devin et tout ça. Mais justement, Devin, ça sonne fort. Mais tout, tu distingues absolument tout. Il y a d'autres, il y a d'autres groupes hein, comme ça. Mais moi, je ne sais pas. Si à partir du moment où tu as plusieurs instruments ou tu as machin... Mais il faut accepter qu'à un moment donné, il y a des trucs, il y a des passages qui doivent sonner moins fort dans ta musique. Si tu fais une musique où tu vas avoir des passages qui vont en plein milieu, tu vois, par exemple sur l'album, il y a 2-3 morceaux où tu as des passages où la tension redescend un petit peu, l'intensité redescend. Mais ça doit être vivant, une musique. Si tout doit sonner fort, moi, c'est pas comme ça que je la conçois. Et que ce soit la production ou même l'écriture musicale, mais... Ouais, tu vois ce que tu me dis. Bon bah ok, cool. Je fais bien mon boulot. Mais non, moi ouais, je conçois pas moi les productions actuelles où tout est écrété à mort, où tout sonne ultra fort. Il y a jamais de passage où ça redescend. Putain, ça me fait chier. Ça me fait chier.
Et en plus, c'est pas écrété. Et en plus,
mais non, mais c'est une connerie, putain, tout le monde écrète sa musique maintenant, et il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus rien, c'est... Putain, mais faites vivre votre musique. Enfin, encore une fois, hein, c'est un avis personnel, hein. Chacun le sien, ok. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on fasse de la musique aujourd'hui où tout doit sonner fort, il n'y a pas de relief. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec toute la musique moderne, alors sans faire le vieux con qui jure que par les années 90 ou 80 ou 70, c'est pas ça, mais juste ça me fatigue, j'en ai marre vraiment d'entendre toujours les mêmes productions où tout est fort, tout est... Et ça fait des années que ça dure. Putain, mais les gars, sérieusement quoi, mettez de la vie dans votre musique, acceptez qu'à un moment donné, bah oui, la basse, elle va pas sonner tout le temps ultra fort, tout le temps constante dans les basses. Ça ne sonne pas comme ça, une basse. Ça ne sonne pas comme ça. Quand tu joues sur la grosse corde, bah oui, il y a plus de bas que quand tu joues sur les cordes aiguës. Pourquoi est-ce que tu veux toujours avoir le même niveau sonore? Et c'est que ça aujourd'hui. Et ça me saoule. Je trouve que ça tue littéralement la richesse d'une musique. Alors, je ne vais pas dire que ça tue la musique. Il y en a qui tirent bien leur épingle du jeu. Et puis, il y a des styles... On va pas dire, hein, mais dans le hardcore, faut que ça sonne comme ça. Pour le hardcore, j'ai pas de problème avec ça. Parce que ça doit sonner comme ça et c'est cool. Mais que vraiment, que dans des styles où c'est censé être un peu plus vivant, entre guillemets, comme le black metal par exemple, putain, mais quelle connerie. putain, mais même quand tu prends des albums de Marduk, bah non, ça sonne pas tout le temps ultra, ultra intense, même si c'est toujours de la musique intense. Et bah non, même dans un album comme Panzer Division Marduk, alors c'est pas évident parce qu'il faut aller les chercher les moments où c'est pas intense, mais tout ne sonne pas en fait ultra fort, c'est juste ça sonne musical. T'as vraiment l'impression d'avoir un ampli, une batterie, et non pas un truc où tu te dis, mais en fait le batteur, il frappe pas, mais son coup il sonne ultra fort quand même. Bon, ça n'a, enfin, je sais pas, ça n'a aucun intérêt pour moi.
Vous racontez la chute d'un monde, un univers post-apocalyptique, par le biais d'un témoin qui est survécu. De plus en plus de groupes s'attachent à dénoncer la folie ambiante, mais rien n'arrête la machine autodestructrice. Considérez-vous votre prophétie comme inéluctable ou est-ce que vous espérez encore une porte de sortie ?
Oula. Là, je pense que si je dois rentrer dans ce domaine, je pense qu'on a 4 heures d'interview devant nous, là. Je vais aller au plus simple. J'ai été quelqu'un de très optimiste pendant longtemps. Au rythme où vont les choses, je le suis absolument plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un après. Je ne vois pas comment le monde tel qu'on le connaît peut aller vers une fin heureuse, ça c'est sûr. Et ce n'est pas possible, de toute façon. Je déteste les matchs, j'adore les individus, j'adore rencontrer des gens. Et moi, ce sont les gens j'apprends beaucoup à leur contact. Mais les masses, elles sont aisément manipulables, on en fait ce qu'on veut et les gens vont aller vers leur destruction avec le sourire aux lèvres. Enfin, je vois pas ça autrement. Et je me dis que nous, on va être là, il va y avoir des gens qui vont essayer de faire quelque chose pour essayer d'ouvrir un peu la tête et dire mais non, on va tous droit dans le mur. Et non, on va y aller, on va être à 260 sur l'autoroute et puis on va y aller, on va se taper le mur, c'est sûr. Chacun est responsable de ce qu'il fait en fait. Donc à un moment donné, je crois qu'on a assez dit tout ce qui nous attend. Si les gens veulent continuer de croire que Apple c'est cool, que la consommation c'est cool, que toutes ces conneries c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné? Bon ben voilà, c'est comme ça. Et le monde sera ce qu'il sera d'ici 2100, et après on sera là, on n'aura que nos yeux pour pleurer, on dira « Oh, bah, si on avait su !» Ah bah ouais. Et à ce moment-là, hein, c'est les plus bas instincts de l'homme qui refont en surface, hein, quand il n'y aura plus de pétrole et qu'on sera tous en train de se quereller pour essayer d'avoir un peu de pétrole ou de choses comme ça. Ça va être terrible.
Un jour ce sera le pétrole, après ce sera l'eau.
Ouais, exemple, je pense que le pire, ça va être la flotte.
June, ça fait une chanson pour quand il n'y aurait plus de pétrole, je ne sais pas si vous connaissez.
Non, je déteste Tagada, je sais pas quoi, là, mes couilles, ça m'intéresse pas. Mais par contre, ce genre de texte va me parler forcément. Moi, je sais pas de politiser ça, parce que la politique me casse les burnes au plus haut point. Mais c'est juste, c'est un fait. C'est un fait, et nous le savons, mais on va y aller. On va y aller à bras ouverts, on va être tous très heureux de cette fin. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit, ça c'est l'histoire de l'humanité et voilà, on va s'autodétruire à un moment donné et du chaos va renaître quelque chose. Qu'est-ce que ce sera ? Je ne sais pas. Nous, on sera... Oh, je ne sais pas, on sera, à mon avis, on sera tout... Même vous serez déjà plus là, à mon avis, pour voir ça, mais... En tout cas, moi, c'est sûr, je ne serai plus là. Mais je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est des choses auxquelles j'aimerais bien ne plus y penser. En fait, j'aimerais bien être complètement aveugle et juste faire ma vie tranquille. Mais c'est un truc, c'est là. C'est... Je ne vais pas dire que ça me hante, mais j'y pense énormément. Au-delà de ma sensibilité qui fait que j'accumule énormément de négativité, mais de par le monde dans lequel on vit. Et Dieu merci, j'ai la musique qui me permet d'extérioriser ça et il n'y avait rien d'autre que le black metal pour pouvoir extérioriser tout ce que j'ai. Ce truc là, c'est un truc qui va me suivre, cette pensée me suivra dans mes textes jusqu'à la fin et j'aime bien avoir ce point de vue un peu du gars qui a vu ça mais qui finalement il est comme les autres et en fait dans mes textes ce gars là est complètement fou aussi parce que il est juste, il est hyper vindicatif mais il n'a rien fait, en fait, pour rien ne change. Donc, il est extrêmement nihiliste par rapport à tout ça. Et je me dis que c'est peut-être moi... Enfin, c'est le moi des mauvais jours, en fait, le gars qui parle. C'est vraiment le moi des mauvais jours, quand j'ai qu'une seule envie, c'est de tout envoyer bouler. Et...
Bah, si on en suit votre raisonnement d'avant, ce gars était le consommateur et il, re- regarde avec joie ce qui se passe.
C'était le cas juste avant l'album. Parce que dans l'album, en fait, il est en train de batailler. Dans l'album, il y a tout qui est en train de chuter. Il faut imaginer des émeutes, du cannibalisme, enfin, tous les pires, toute la plus grosse folie humaine qui perd. Imagine une civilisation qui perd complètement en pied. Et c'est tous nos plus bas instincts dans la rue. Les gens s'entretuent, c'est la loi du plus fort, hein, à ce moment-là. Il n'y a plus de policiers qui est là pour te défendre. Ça va être... C'est comme ça. Et en fait, ce que tu viens de dire, en fait, ça ne s'est pas encore exprimé sur des textes. Puisque sur l'EP, on est déjà bien avancé dans tout ça. Sur l'EP, on a plus un mec qui est vraiment rongé par la folie, les remords, la colère. Mais c'est un mec qui est seul. C'est un mec qui est seul et qui n'a plus que ses remords pour finir ses jours. Là, il est juste en train de contempler ce qu'il a vu arriver. Il n'y a rien qui puisse faire, parce que tu ne pourras strictement rien faire. Ça sera beaucoup trop fort. On verra peut-être sur peut-être le troisième album sera le...
Si une personne essaye de faire changer les choses, si elle n'est pas influente, elle ne va pas réussir. Si elle est influente, elle pourra peut-être pousser la population à faire attention.
On est très à chercher l'homme providentiel, mais ça ne marche pas comme ça. Soit tout le monde comprend qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus continuer comme ça. Si on veut... Tiens, il y a un truc qui me fera toujours marrer, c'est qu'on est là, black metal, anti-vie, machin, machin. Moi, ce qui me permet d'en faire aujourd'hui, c'est justement de vivre dans un monde où on n'est pas encore à s'entretuer pour une miette de pain. Le jour où... Ouais, le jour où ça va arriver, on pourra plus créer. Et là, ça va au-delà du black metal, ça va au-delà du métal, de tout ça, de notre propre condition. Il y a un jour, on n'aura plus le temps de faire ça. Moi aujourd'hui, j'ai la chance de vivre déjà dans un pays où on n'est pas sous les bombes. Parce que moi j'ai quelques comparses ukrainiens, c'est pas la fête. On a cette chance-là, on a du temps pour pouvoir faire notre art. Et moi je suis heureux de pouvoir vivre ça. Mais peut-être qu'un jour tout ça va être terminé. Influencer, moi je suis pas là pour donner un message. En fait, vous le savez tous, il n'y a pas d'excuse. On vit une époque, il y a tellement d'informations, il y en a trop même. Et puis tout le monde ouvre sa gueule, c'est chiant. Que les gens apprennent un peu à fermer leur gueule sur ce qu'ils ne connaissent pas, ce serait bien aussi ça. Et arrêtent de donner leur avis tout le temps, complètement pété alors qu'ils ont pas tous les éléments. Mais juste, il y a des choses, on sait. L'information est à portée de chacun. Hein. C'est même le clampin moyen qui vit au fin fond de la Creuse, il a accès à toute l'information du monde. En tout cas, c'est à portée de chacun. Maintenant, voilà. Faites ce qu'il faut à votre échelle. N'essayez pas de changer le monde, mais faites ce qu'il faut à votre échelle.
Et merci de nous avoir accordé cette interview. À bientôt pour recueillir vos expressions sur le set du Hellfest 2025.
Merci.
Merci, c'était super cool.